Toc, toc, toc. Bonjour, Bruno Guglielminetti, vous êtes là?
Et qui va là?
Salut, Jérôme Colombin.
Salut, on se retrouve comme chaque semaine de part et d'autre de l'Atlantique pour ce débrief.
Et pas mouillé, écoute, hein, quand même.
Ouais. Et pas mouillé, en plus. Et mouillé, exactement. Ouais. Et en plus, ce débrief, on le sait, apparemment, bien, plaît à nos auditeurs respectifs, hein, si on en croit les retours.
Ouais, alors merci beaucoup à tes auditeurs, puis merci aux miens, parce que j'ai vraiment que des bons commentaires. On se fait
alors
plaisir et on fait plaisir.
Et cette semaine, Bruno, on a prévu de parler de deux, trois petites choses, et notamment d'un sujet qui t'a été soufflé par un de tes auditeurs, c'est ça?
Ouais, écoute, c'est cette semaine, il y a eu plusieurs publications de nouveaux objets, de nouveaux outils dans le contexte de l'AI et de la production. Je pense à Vehicle AI qui permet de remplacer quelqu'un sur une vidéo. Je pense à Adobe qui a annoncé, mais vraiment là, une méta-bombe d'intelligence artificielle dans Premiere Pro. Je grossis l'affaire, là, mais qui permet presque maintenant aux gens de ne pas connaître le logiciel, mais tout simplement d'ouvrir Premiere Pro et d'écrire
ce qu'ils veulent faire.
Ouais, enlever un bout, rajouter un bout, mais un bout qui n'est même pas là, là. C'est encore plus que créer des séquences.
Générer du contenu.
Oui, tout à fait. C'est un peu Sora, Runway, Pika, Firefly Video et Journey mis bout à bout et mis dans Premiere Pro. C'est vraiment impressionnant. Puis, plus récemment, il y a Microsoft qui vient de présenter Vasa 1, qui est une intelligence artificielle. Ça se fait déjà, mais c'est juste que c'est vraiment bien fait, qui permet de prendre une photo, de rajouter un fichier audio. Et à partir de ce moment-là, elle synchronise la photo qui devient de la vidéo avec les paroles qu'on envoie, mais incluant une très bonne synchronisation par rapport aux lèvres, mais aussi par rapport à l'émotion dans le visage. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et suite à ces publications-là...
Mais c'est vrai que ça ressemble, à ce que Google a lancé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Vlogger. Hein.
Exactement, ou Wemo d'Alibaba, qui existe déjà depuis un moment. Donc, ces publications-là ont fait dire à mes abonnés, et je trouve ça tellement bon, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Sur le coup, je vais être honnête avec toi, là, j'ai dit « bon, quel rabat-joie ». Puis après, ça m'est revenu en tête, j'ai dit « mais il a pas tort ».
Finalement.
Il a pas tort. En tout cas, c'est de lancer la réflexion. Alors, je te la pose, Jérôme, est-ce qu'on a besoin de tous ces outils-là?
Ah là 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 là. C'est vrai que la question est super intéressante et je pense que chacun dans son coin peut y réfléchir. Moi, je suis un peu convaincu que oui, on a besoin. Alors, besoin, c'est pas le mot, mais l'innovation technologique et notamment dans le numérique, elle s'est souvent construite par des choses futiles. C'est beaucoup par la porte d'entrée du divertissement. C'est beaucoup par regarde toutes les applications de correction les filtres pour corriger son visage, etc. Alors c'est pas la notion de besoin, effectivement il y a des enjeux plus graves dans le monde et on pourrait se dire que ces solutions là ne résolvent aucun problème important, mais ça fait néanmoins partie de la vie et surtout ça fait avancer le bouchon en fait. Donc moi je pense que besoin, c'est peut-être pas le mot, mais ce n'est pas inutile, en fait, ces choses-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
C'est probablement l'exemple d'Adobe et de Premiere Pro, moi, qui viennent me chercher dans l'aspect de on n'en a pas de besoin, mais ça vient faciliter la vie. Ouais. Parce que Premiere Pro, c'est un bijou comme logiciel, mais la courbe d'apprentissage, de temps en temps, elle est longue.
Ouais, c'est une usine à gaz.
Et ça va permettre d'avoir cette approche-là. Donc, un Premiere Pro qui carbure à l'IA, d'arriver à faire des choses que normalement, ça prendrait quelques heures derrière le clavier pour arriver à faire un truc comme ça pour quelqu'un qui commence. Tandis que là, on voit un peu comme Photoshop. Hein, Photoshop, ils ont commencé à utiliser l'IA là-dedans et puis ça facilite le travail. Donc, moi, je trouve que ce sont des améliorations et ce sont des outils, dans certains cas, des nouveaux outils qui sont bienvenus. Puis oui, on n'en a pas besoin pour vivre, sauf que ça vient faciliter la tâche comme 80% des applications qu'on a sur nos téléphones.
Alors bien sûr, on parle d'applications professionnelles. Nous, ça nous touche parce que c'est dans notre univers, mais ça ne concerne pas du tout le grand public. Mais ce sont des choses effectivement utilisées par des milliers, des millions de gens à travers le monde et c'est des outils de production qui sont...
Mais pense à une application comme Vasa de Microsoft qui te permet de prendre une photo et de la faire vivre, un peu comme on voyait dans les films d'Harry Potter où tout le monde avait été ébahi par ces cadres, ces peintures qu'on voyait bouger sur un mur. Ben avec Vasa, c'est un jeu d'enfant d'arriver à faire ça avec une photo qui date de l'époque de votre grand-père, votre arrière-grand-père. Et c'est des trucs comme ça que moi, j'avoue que je trouve intéressant de voir que c'est là, c'est disponible. Et puis, mais enfin. Mais Jérôme, parlant d'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui est sorti en France par rapport à la relation que les Français entretiennent avec l'intelligence artificielle.
Oui, absolument. Alors, c'est assez intéressant, ce sondage. C'est la deuxième édition d'un baromètre qui révèle que les Français, eh ben, écoute, aiment bien l'intelligence artificielle. Ils sont très utilisateurs des nouveaux outils d'IA générative. Plus de 60% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Alors, ce sont surtout les jeunes qui les utilisent, hein, 18-24 ans, 25-34 ans, etc. Et ceux qui n'utilisent pas, en tout cas, en ont entendu parler, puisque 78% des Français ont entendu parler de l'intelligence artificielle. Ça dit, c'est un peu difficile de passer à côté actuellement. Ouais. Et il y a un autre chiffre dans ce sondage, il y a plein de chiffres intéressants, et j'en parle d'ailleurs cette semaine dans Monde Numérique, notamment 35% qui déclarent qu'ils ont d'ores et déjà du mal à s'en passer de l'IA.
Quand même.
Ouais. Alors, c'est souvent pour des raisons professionnelles, hein, parce que c'est souvent dans le cadre professionnel que ça se passe. Et d'ailleurs, les entreprises, apparemment, il y en a à peu près une sur deux qui encouragent leurs collaborateurs aujourd'hui à utiliser de l'IA. Et ça aussi, je trouve c'est intéressant parce que c'est un revirement. Au début, c'était pas comme ça. Au début, dans beaucoup d'entreprises, il y avait une énorme crainte, et notamment dans les médias, où on fabrique de l'information, eh bien, chez nous, c'était plutôt une hyper-méfiance en disant « Attention, attention, il ne faut pas utiliser ça, il ne faut pas faire d'images générées par IA pour des illustrations, il ne faut pas essayer de chercher de l'information sur ChatGPT. » Et puis là, bien, d'une part, les outils ont déjà évolué par rapport à ce que c'était au début, et d'autre part, eh bien, il y a une appétence et une appréhension qui est vachement… Enfin, appréhension au sens le fait d'appréhender, hein, les Français s'y mettent à fond. Les Français sont geeks finalement, c'est étonnant, hein. Et en plus, et même ils n'ont pas peur de l'IA majoritairement.
Est-ce qu'on a posé la question quelle IA ils utilisaient? Est-ce que c'est l'américaine ou est-ce que c'est la française?
Alors en premier, ça ne te surprendra pas, c'est ChatGPT à 66%, dont 11% en version payante. Quand même.
Ah, quand, ouais, c'est bon.
Oui. Ensuite, c'est Gemini de Google, Copilot de Microsoft, mais par votre. Enfin, c'est donc ChatGPT qui est derrière. Ouais. Voilà. Et tu parlais de Adobe, eh bien, c'est Firefly de Adobe.
Ah, ouais.
Firefly, cette palette d'outils pour générer des images, retravailler des images également, qui est disponible en ligne avec certaines fonctions qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Et ça fait des trucs assez fantastiques d'ailleurs, Firefly.
As-tu l'impression que l'échantillonnage, les entrevues ont été faites avant la sortie de Mistral et que Mistral aurait peut-être trouvé une place là-dedans?
Peut-être. Alors attends, j'ai pas la date sous les yeux, mais sur ma source, ça c'était noté. J'aurais dû noter la
date. Parce que vous êtes tellement chauvin que...
Est-ce que les gens se sont rués sur le chat? Je ne sais pas. Parce que Et d'ailleurs, on dit le chat, hein. Vous m'aviez repris avec François Sorel, mais on dit bien le chat et pas le chat. C'est ça le gag. C'est que c'est français. Mais oui, monsieur. Donc, le ChatGPT de Mistral, c'est le chat.
Le chat.
Mais bon, il n'est pas très connu, le chat, hein, il faut bien dire.
Mais quand même, il y a AWS qui a fait un bel hommage en l'intégrant dans sa trousse d'outils là, de Bedrock.
Ben, c'est la force des outils de Mistral. Il y a trois outils, je crois, hein, du plus petit au plus gros. Ouais. Et effectivement, il peut être embedded dans des tas de plateformes différentes et dans des tas de solutions différentes.
Ouais, puis l'avantage, je pense que c'est important de le dire, c'est que comparativement aux autres outils qui ont été développés, qui sont très américano, là, dans le cas du chat de Mistral, tu vois, le peu comme ça, il s'est vraiment conçu avec une vision européenne. Et donc, si vous cherchez ce type d'apprentissage derrière l'intelligence artificielle, ça devient un incontournable. Et ça aussi, c'est important.
Oui, c'est important, mais je n'ai pas suffisamment testé le chat pour éprouver ce côté européen. Je ne sais pas si toi, tu
Ben, écoute, moi, j'ai fait le test. Il te connaît, il connaît François Sorel, et il n'a aucune idée de qui je suis.
Ah bon? Ah oui, non, mais carrément, c'est du chauvinisme, c'est plus du l'européanisme, c'est du chauvinisme.
Non, c'est du protectionnisme.
Ah, oh, mais ChatGPT aussi, je crois, il me connaît, il te connaît.
Oui, il te connaît très bien, ChatGPT.
Oui, mais il te connaît aussi.
Oui. Ah oui, il me parle de toutes ces années où j'ai... À l'époque, au début, et il me parlait de toutes ces années où j'avais travaillé au journal Le Monde.
Ah bon? Oui.
Mais après, le tir a été rajusté, et je suis finalement...
C'est vrai qu'il nous invente des carrières. Oui, François Sorel, je ne sais plus, il l'avait mis à l'équipe ou je ne sais où.
Ouais. Mais non, c'est ça, mais maintenant, tu lui poses la question, puis il sait qui on est, tant mieux. Hey, avant de te laisser, je voulais voir avec toi si tu avais vu passer cette nouvelle-là. Moi, j'en ai parlé dans une infolettre. L'impact insoupçonné des réseaux sociaux sur nos ongles.
Ceux qu'on
trouve là, au bout de nos doigts. Là.
J'ai vu ta news et ton article là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Mais raconte-nous ça. C'est-à-dire, c'est le fait de scroller qui abîme les ongles?
Ben oui. C'est Jason Adler qui a écrit quelque chose là-dessus. C'est un ingénieur qui est dans le domaine de l'Internet. Et lui, son commentaire général, puis je pense que ça résume assez bien l'histoire, c'est que le balayage, la saisie et le défilement constant sur nos appareils sont autant de stress pour nos ongles qui, comme le reste de notre corps, révèle notre état de santé générale. Et lui, c'est basé sur deux études récentes qui ont été faites par des boîtes qui s'intéressent aux ongles. Ouais. C'est des boîtes commerciales là, qui s'intéressent. Mm-hmm. Et donc, test après test, ils sont remarqués que la santé des ongles était meilleure chez ceux qui utilisaient moins les réseaux sociaux et en général, moins leur téléphone.
Je comprends pas parce qu'on n'utilise pas ses ongles sur l'écran en général. Alors, moi, si, sur le trackpad de mon ordinateur, c'est beaucoup avec les ongles. Mais je pensais que c'était une anomalie personnelle.
Cette étude-là qui a été faite par IntechnoPen et NailMag, c'est deux études séparées là, qui ont été faites. Et évidemment, ils s'intéressent à un marché qui se préoccupe de leurs ongles, qui est en grande partie féminin. Et ce sont des...
Donc, les femmes scrollent avec les ongles?
Ben, semble-t-il, ouais.
C'est bizarre. En plus, si elles ont les ongles longs, c'est pas très facile. J'espère qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui pourront témoigner.
Ils se sont gourés. Mais évidemment, quand j'ai vu cette histoire-là, j'étais un peu sceptique, mais j'ai été voir les deux études, et effectivement. Plus on utilise les Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok sur notre téléphone mobile, et plus on endommage nos ongles.
D'accord. Ouais. Ah bon, donc on va, c'est une raison de plus pour lever le pied, enfin pour lever l'ongle, plus exactement.
Et après, on dira qu'on donne pas d'informations crédibles et intéressantes quand on se parle.
On est quand même au top de la technologie.
Regarde.
Bruno, encore un mot. Tu sais que ça m'interpelle là, le fait que ton auditeur t'ai posé une question et moi je me dis qu'on devrait peut-être inviter nos auditeurs respectifs à nous suggérer effectivement des pistes de réflexion, soit à nous poser des questions, soit à nous interroger sur des sujets d'actualité ou à nous donner leur avis. Et ça pourrait être intéressant pour nourrir cet échange.
Défi accepté, on invite autant les tiens que les miens. Puis si vous voulez pousser la note encore plus, vous nous envoyez ça par un fichier audio.
Par vocal, bien sûr.
Comme ça, vous pourrez vous entendre.
Sur le site mondenumérique.info, il y a un petit bouton, il suffit de cliquer pour envoyer un fichier audio.
Mais tu fais exprès. Hein? Moi, c'est encore plus simple. Vous enregistrez à partir de votre téléphone et vous m'envoyez le fichier audio sur moncarnet.com et ça sera fait. Mais on vous invite et puis peut-être que vous pourrez entendre réponse à votre question. Jérôme, là, je vois le temps passer et je sais que les auditeurs veulent entendre la suite de ton podcast. Tu parles de quoi cette semaine?
Alors, cette semaine, je parle d'exosquelettes. J'ai rencontré une grande marque qui fabrique des exosquelettes.
Une marque française?
Non, c'est une marque allemande, c'est européen. Et c'est intéressant parce que ça permet de rappeler un peu ce que c'est qu'un exosquelette, comment ça marche, à quoi ça sert, quelles sont les potentialités. Et il y a de plus en plus d'intelligence dans les exosquelettes avec la récupération, le traitement des données pour faire toutes sortes de choses. Et je parle également du numérique au service de la culture, avec une innovation très sympa d'une start-up française qui permet de dialoguer virtuellement avec des personnages de l'histoire. Donc, c'est un petit chatbot et tu peux poser tes questions et tu peux avoir une conversation avec Cléopâtre ou avec des peintres, avec des écrivains ou même avec Ada Lovelace, par exemple, qui est, comme tu le sais, la mère des algorithmes. Cette américaine, je crois, qui avait inventé les algorithmes.
Mais est-ce que tu as eu une discussion avec son robot conversationnel à elle?
Oui, tout à fait. J'ai chatté avec Cléopâtre.
Puis elle parle en français, en plus.
Elle parle en français, Cléopâtre, tout à fait. Je lui ai demandé comment elle allait, alors elle n'a pas voulu me répondre. Je lui ai demandé si elle avait vraiment eu un crush avec Jules César. Elle m'a confirmé, elle m'a dit que oui.
Ah oui?
Voilà, d'accord. Donc c'est une info intéressante.
En tout cas, elle confirme.
Voilà, exactement.
Permets-moi d'inviter mes auditeurs à aller écouter mon numérique pour entendre la suite de tes propos avec tes invités. Et puis sinon, on se donne rendez-vous pas la semaine prochaine, peut-être l'autre d'après. On le
Alors,
pas,
si, on va quand même se retrouver la semaine prochaine, Bruno, mais on se retrouvera pour le grand débrief avec François Sorel.
François Sorel, c'est pas pareil, ça. Ouais. Exactement. La grosse qualité, ça.
Ouais, mais en revanche, notre petit échange en tête-à-tête, on verra ça plus tard, parce que je prends un peu de vacances, hein. Désolé.
Ah, écoute, t'es pardonné, mais elles sont au moins de te reposer.
Les Français prennent souvent des vacances.
Ouais, ouais, non, on commence pas, là.
Voilà. C'est nous, chez nous, nous, on sait vivre. On sait vraiment bien vivre. Ça fait combien de temps que t'as pas pris de vacances, toi?
Oh, tu veux pas le savoir. Mais je te rappelle que c'est dans moins de 100 jours,
les Jeux.
Moi, ça fait
4 mois, Ah oui? Ouais, mais c'est pour ça. Je m'en vais vite avant les Jeux.
Ouais. Mais de toute façon, nous, on va se voir hein, à Paris. Je passe voir Vivatech, alors.
Ah oui, donc on se verra en juin à Vivatech.
Oui.
Ah, bah, super. Bah, tu seras bienvenue.
Alors, mes auditeurs pourront entendre ça en direct.
Top.
Bon, allez.
Salut, Bruno.
Salut, Jérôme.